1-2, 1-2, 1-2, j'attends des feedbacks pour me dire si le son est là. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Bonjour, est-ce que le son est là? Est-ce que vous m'entendez? Il semble qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Donc,
le son est là.
Si moi je m'entends là.
1-2, 1-2.
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, Emma. Stop. Couchez. Rebonjour à tous. Hello Sylvia. So we had problems connecting today. Oui, vous m'entendez? Cool, 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 enfin. OK. Désolé, plusieurs problématiques en même temps de connexion, de ci, de ça. Aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai débranché et tout reconnecté trois fois jusqu'à présent. Donc, content que tout soit de retour. Alors bon, je vais en avoir raté plusieurs, mais je vais essayer de saluer quelques personnes. Bonjour Sylvia, bonjour Andrés, bonjour Florie et Louise, bonjour Pascal, bonjour Daniel Le, bonjour Jimmy, bonjour Annie, bonjour à mon père, à ma mère, bonjour à Mildred. Donc voilà. Et puis bonjour à Marie Huguette. Voilà. Oh, c'est stressant pour commencer la journée. Mais la journée a commencé il y a quand même un peu plus de 3 heures dans mon cas, là, mais bon. Pour commencer la bénédiction matinale, c'est un peu stressant. Donc, bien heureux que tout semble entrer dans l'ordre. Bon matin à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour Charlotte. Voilà. Bizarre cette histoire. Je grossis un peu mes choses, voilà. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop perdu de gens. Bonjour Daniel. Hello Pastor David. C'est les joies du live. Donc habituellement ça fonctionne bien, mais à l'occasion ça peut nous stresser. Alors excusez-moi à tous ceux que je ne vois pas. Je crois qu'il y a Landry et Lalande qui sont là aussi. Je crois avoir vu le visage apparaître. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc à tous ceux qui se connectent et qui sont connectés mais que je n'ai pas salué, excusez-moi. We wait for greatness. You're so kind, David. God bless. OK, alors on va prier. On est déjà en retard, donc je ne vais pas vous garder trop longtemps non plus ce matin. On va prier. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes malgré les pépins qui sont survenus, cette occasion que tu nous donnes malgré tout d'être branchés tous ensemble pour recevoir ta parole, méditer ensemble sur des choses que tu veux changer et transformer dans nos vies, et surtout recevoir de toi la nourriture dont on a besoin, l'eau dont on a besoin, la source de vie dont on a besoin. Alors ce matin, étends ta main sur ma sœur, sur mon frère, sur moi-même, bénis-nous et permets-nous de profiter pleinement de ces quelques instants que nous avons décidé de prendre à l'écoute de ta parole, et aussi, Seigneur, les regards plongés en son sein. Donc, en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi aujourd'hui, tout au long de cette journée et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, désolé pour le contretemps. Ça arrive parfois. C'est pas arrivé trop souvent en un an, mais à l'occasion, ça nous arrive. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Deutéronome au chapitre 15. Deutéronome chapitre 15, et je lis pour vous les versets 1 et 2. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Je relis les deux versets. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. On a vu déjà on est de la troisième journée, on a vu deux choses importantes cette semaine jusqu'à présent. On a parlé du relâche, le shemita, qui était une remise, une libération et un pardon d'une dette. On a vu que ce relâche était aussi synonyme de la fin des paiements outranciers, des paiements exagérés que parfois on impose à qui on doit, qui nous doit, à qui on pense qu'ils nous doivent. Et puis, c'était aussi la fin des rétributions, la fin de ce principe de vie, œil pour œil, dent pour dent, et que c'était donc la fin de la loi du talion. Que c'était aussi l'occasion de prendre des engagements publics afin de ne pas revenir sur nos décisions du pardon. Lorsqu'on parle du relâche, on parle de la dette non seulement pécuniaire, non seulement financière, que quelqu'un peut avoir prise envers nous, mais aussi toutes ces occasions où on sent, où on a la pensée que les gens nous devraient quelque chose, que ce soit parce qu'ils nous doivent des excuses, que ce soit parce qu'ils nous doivent des remerciements, que ce soit parce qu'ils nous doivent un peu de gratitude. À toutes les fois où on pense que les gens nous doivent quelque chose, lorsqu'on applique la loi du shemitah, la loi du relâche, c'est donc qu'on permet à ces gens d'effacer complètement leur dette. En fait, nous, en tant que créanciers, on efface la dette de ces gens. Et je comprends que le pardon, puisque foncièrement c'est de cela qu'on parle cette semaine, est un sujet difficile, est un sujet douloureux. Il n'y a personne ou, pour la plupart, peu de gens se sentent bafoués, se sentent abusés sans qu'il n'en ait des preuves et sans qu'il n'en ait des raisons tangibles. Et je sais que très souvent, on aimerait avoir une certaine libération officielle, on aimerait avoir une cessation des abus, et on a l'impression que si on relâche quelqu'un, on va se faire abuser une deuxième, une troisième, une quatrième, une xième fois. Ce que je vais vous dire maintenant, ça pourrait être douloureux à la pensée, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'avons d'autre choix que de pardonner, même si l'outrage a été énorme. Même si l'outrage a été douloureux, nous n'avons d'autre choix que de pardonner. La vie chrétienne est une vie dans laquelle le pardon a une position de primeur ou de primauté. La vie chrétienne, la vie en tant qu'enfant de Dieu, au sens biblique du terme, fait en sorte que nous devons pardonner. Le pardon n'est pas une option, le pardon n'est pas une suggestion de Dieu à notre égard. Le pardon est une loi établie par Dieu pour nous, pour en fait l'ensemble de l'humanité. Nous devrions tous pardonner, d'autant plus si je me considère enfant de Dieu, d'autant plus si je me considère comme serviteur du Dieu de la Bible. Alors ce faisant, je devrais effectivement appliquer le pardon, même s'il est douloureux. Même s'il est difficile, mais pardonner et se mettre en règle envers le Seigneur. Pardonner, c'est se mettre en conformité avec les exigences de Dieu. Alors, j'espère que ces quelques enseignements qu'on voit cette semaine peuvent quand même vous bénir et vous amener à être en conformité, en obéissance avec la parole de Dieu. La partie de texte qu'on étudie aujourd'hui, c'est dans le verset 2 où on nous dit « Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. » Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Effectivement, ici on parle d'une question financière, mais on a vu que le fait que les gens nous doivent quelque chose, ça dépasse la question des finances, ça dépasse la question de l'argent. Alors, on va étudier ce que veut dire abandonner délibérément l'exercice de ses droits. Lorsqu'ici, le Seigneur est en train de parler à son peuple, il est en train de dire, voici ce que je vous avise, voici de quoi je vous avise, ou voici ce que je vous enseigne. Et une fois que cela vous est enseigné, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Et il va leur dire, je veux que tout créancier abandonne ses droits sur quelqu'un. Et on a vu un peu ce que ça représentait il y a quelques jours, mais on va aller plus loin dans la définition du droit. Ces droits, c'est le terme hébreu yad, Y-A-D, Y-A-D, yad, pour droit. Et il y a quatre ou cinq synonymes qui sont intéressants à voir concernant ce terme-là de droit. Vous savez que tant en grec qu'en hébreu, très souvent, la langue est très imagée. On va prendre un objet qui va être sorti peut-être de son utilisation habituelle et on va en faire une image dans un autre contexte. Et aujourd'hui, les quatre mots, les cinq mots plutôt, qu'on va mentionner, ce sont des images ainsi. Je vous les énumère et on va les expliquer un peu plus tard. Le premier terme, c'est le terme « main », une main. Le deuxième terme, c'est le terme « autorité ». Le troisième terme, c'est le terme « part », une part, P-A-R-T. Le quatrième terme, c'est le terme « axe ». Et le cinquième terme, c'est le terme « tenon », T-E-N-O-N. Et je vais expliquer chacun de ces termes et ça va nous montrer en quoi nos droits sur quelqu'un peuvent avoir une incidence. Et lorsqu'on décide de pardonner à quelqu'un, voici dans quel domaine on est en train de libérer cette personne. Alors le premier terme, la première définition ou le premier synonyme de droit en hébreu yad, c'est le terme main, une main, donc la main avec ses doigts, M-A-I-N pour ceux qui prennent des notes. Lorsqu'on parlait d'une main, on parlait d'avoir la main mise sur quelqu'un. C'est donc le droit légal, le droit légitime ou le droit juridique sur quelqu'un. Lorsque nous libérons quelqu'un, ça ne peut pas être strictement, officieusement. Il faut que ce soit officiellement. Pourquoi? Parce que si c'est juste officieusement, nous pouvons toujours, comme on l'a vu hier, retourner en arrière et exercer une pression, exercer nos droits sur quelqu'un. Alors que lorsque le Seigneur nous parle ici dans ce texte, il dit « Je veux que le créancier, arrivé à cette date particulière des 7 ans, arrivé à cette époque particulière du jubilé, relâche officiellement, relâche sans droit de retour en arrière, sans droit de révoquer sa décision concernant sa mainmise sur quelqu'un. » Alors nous ne pouvons pas simplement y aller à tâtons, nous ne pouvons pas y aller simplement avec quelque chose qui est officieux ou quelque chose qui est officieuse. Nous devons effectivement pardonner de façon officielle, claire et définitive. Et voilà pourquoi il est important d'avoir des témoins. Quand on mentionnait lundi, que le pardon devait être une publication, le pardon devait se faire publiquement, c'était le terme invoqué, c'était le terme proclamé, c'était le terme publié, kara en hébreu. Il faut que cet acte légal dans lequel on libère quelqu'un, il faut que ce soit officiel pour que nous ne puissions pas par la suite revenir en arrière et remettre sur les gens un joug qu'on avait retiré de sur leurs épaules. Alors le premier domaine dans lequel on demande d'être libéré ou dans lequel le Seigneur nous demande de libérer notre frère, c'est au niveau légal. Juste en passant comme ça, bibliquement, la Bible nous dit qu'on ne devrait pas amener notre frère devant la justice. On ne devrait pas arriver à un point où notre litige, nous allons le régler devant les autorités de cette terre. Notre bonne entente, notre communion devrait faire en sorte que les litiges entre un frère et une sœur puissent se régler à l'extérieur des pourtours d'une cour légale. C'est l'exhortation, c'est l'enseignement que la Bible nous donne. Mais assurément, lorsque nous avons un créancier, lorsque nous avons quelqu'un qui nous doit quelque chose et que nous arrivons à ce point où nous prenons la décision de nous conformer à la parole de Dieu, légalement parlant, nous devons aussi libérer cette personne pour ne pas avoir à remettre une mainmise sur cette personne. Avoir une mainmise sur quelqu'un, c'est avoir cet article dans les mains, avoir cette option dans les mains où la personne sait qu'à un moment donné, je peux me lever contre elle et avoir des preuves, avoir des incitatifs qui font que je peux la condamner. Donc, lorsque je décide de pardonner, je décide aussi d'abandonner le jugement que je pourrais avoir envers cette personne. Le deuxième terme, c'est le terme « autorité ». Tout à l'heure, c'était la main, donc un droit légal, une capacité à amener la personne en justice, une capacité à condamner la personne. Lorsqu'on parle de l'autorité, comme deuxième synonyme du terme « yad » ou « droit », on parle donc du droit moral, du droit de leadership sur une personne. Vous avez certainement remarqué, peut-être que vous ne l'avez pas vu dans votre exercice d'être un créancier, mais peut-être dans l'exercice d'être un débiteur. Si vous deviez de l'argent à quelqu'un, plusieurs font cette constatation navrante, c'est que lorsqu'on doit quelque chose à quelqu'un, il semble que cette personne ait certains droits sur nous, certains droits d'intervention, certains droits de regard, certains droits de commentaire, voire même certains droits d'orientation. Lorsqu'on parle d'un droit moral ou d'un droit de leadership, c'est que très souvent, lorsque nous sommes le créancier de quelqu'un, lorsque nous avons prêté à quelqu'un ou lorsque quelqu'un nous est redevable, on pense aussi être en droit d'orienter la vie de cette personne. Alors, lorsque je relâche une personne, je relâche aussi mon droit que je pourrais mettre institué par moi-même, que je pourrais mettre accordé par moi-même, ou le droit que cette personne, en tant que débitrice, pourrait m'avoir accordé. J'accepte de ne pas avoir de droit sur l'orientation, sur le parcours de cette personne. Lorsque je relâche quelqu'un avec le pardon ou avec le relâche des dettes à mon égard, je relâche non seulement ma capacité à juger cette personne, ma capacité à amener cette personne en jugement, mais je relâche aussi mon droit à l'orienter, mon droit à dicter son parcours. Et ça, c'est quelque chose d'insidieux très régulièrement. Lorsque nous sommes redevables de quelqu'un, soit on peut placer cette personne en autorité, puis on se dit, tant que je lui dois quelque chose, alors je suis obligé de l'écouter, d'une part. Ou lorsque moi, je prête à quelqu'un et lorsque je crois que cette personne m'est due, je peux ne pas comprendre que cette personne n'écoute pas ce que je lui dise. Je peux ne pas saisir pourquoi cette personne ne fait pas ce que je lui demande puisqu'elle me doit quelque chose. Alors le pardon et le relâche des dettes, c'est aussi dire à cette personne et aussi accorder à cette personne le droit complet de gérer sa propre vie et de décider vers quel côté elle s'en va, sans que j'aie de commentaires à émettre, sans que j'aie un jugement à apporter. La troisième notion par rapport à Yad, après la main, l'autorité, le troisième point, la part. Lorsque je prête à quelqu'un, je peux ne pas avoir une mainmise totale sur son existence, mais je peux avoir dans ma tête, je lui ai prêté de l'argent pour telle chose, ou je l'ai aidé dans telle chose, alors il y a une partie de son acquis qui me revient à moi comme une dividende. Si elle profite de mes conseils, elle devrait à ce moment-là me remercier avec une partie de ses profits. Si je l'ai aidé dans un domaine et que dans ce domaine, elle en tire un profit, sans qu'on l'ait demandé, sans qu'on l'ait imposé, sans qu'on ait statué la chose, il semble que régulièrement, on a cette pensée que si elle était pour le moins reconnaissante, si elle était pour le moins bien élevée, ben elle me donnerait un petit retour sur son profit. Ça, c'est attendre quelque chose de quelqu'un parce qu'on a fait du bien à cette personne. Lorsque je décide délibérément de me conformer à la parole de Dieu, je décide d'abandonner délibérément aussi mes droits sur cette personne et je décide que je n'attends pas un retour sur mon investissement. Je n'attends pas un retour sur le profit qu'elle pourrait faire. Si la personne veut m'honorer avec un geste et un présent, je peux, à mon libre arbitre, décider de l'accepter ou pas. Je peux refuser aussi ce gage de reconnaissance de la part de la personne. L'important, c'est de savoir que je n'ai pas de mainmise ni sur la totalité de ce qu'elle fait, ni même sur une partie de ce qu'elle fait, ni même sur le profit qu'elle pourrait faire des conseils, de l'assistance, de l'aide technique, de l'aide pratico-pratique que je lui aurais apportée ou même de l'argent que je lui aurais prêté. Lorsque je pardonne quelqu'un, lorsque je pardonne une dette, lorsque je libère quelqu'un d'une dette, je la libère aussi de tout droit que je pourrais exercer sur une partie de son profit ou sur les dividendes qu'elle pourrait tirer de mon aide et de mon concours. Ça, c'était le troisième terme. Là, c'est un terme qui est tout à fait imagé, qui est intéressant. L'axe, abandonner délibérément l'exercice de nos droits, droit ici étant donné ou étant illustré par le terme axe. Qu'est-ce qu'un axe? Un axe, c'est ce qu'on appelle l'essieu d'une roue. C'était cette espèce centrale, de cette partie centrale d'une roue qui entraîne la roue. Je suis pas fort en mécanique, j'étais pas fort en physique non plus à l'école, mais l'axe était donc ce qui entraînait la roue dans son mouvement. Et lorsqu'on dit qu'on libère quelqu'un de ses droits, on libère aussi cette personne de notre rôle d'axe, de cet axe qui entraîne la roue dans son mouvement. Et c'est ici une image importante. On arrête notre droit ou on abandonne ce qu'on considère être un droit sur le fonctionnement ou sur l'arrêt de quelqu'un. Parfois, lorsqu'on aide quelqu'un, on pense que cette personne doit aller au rythme que nous imposons. Lorsqu'on assiste quelqu'un, que ce soit en ayant prêté quelque chose, en ayant prêté de l'argent ou tout simplement parce qu'on croit que cette personne nous a offensés et par conséquent, elle nous est débitable, elle nous doit quelque chose. Donc, on devient un peu l'axe moteur de cette personne et on se dit, si je ne donne pas mon aval, je ne lui permets pas d'avancer. Si je ne lui donne pas mon approbation, je ne lui permets pas d'avancer. Ou en contrepartie, parce que je suis son créancier, alors si je lui dis d'avancer, elle va avancer et elle va faire ce que je lui dis de faire. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu, nous acceptons aussi que nous abandonnons notre droit ou l'exercice de nos droits sur quelqu'un et nous abandonnons nos droits sur le fonctionnement ou l'arrêt de quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu, oui, nous pouvons donner des avertissements aux uns et aux autres. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons donner des conseils aux uns et aux autres. La Bible nous dit que c'est avec le conseil avec l'œuvre de multiples conseillers que la sagesse s'installe. Donc, assurément, tu peux faire partie d'une multitude de conseillers auprès d'une personne. Mais c'est pas parce que tu donnes un conseil que ce conseil doit nécessairement être appliqué. Et c'est pas parce que tu as offert un conseil que cette personne t'est donc débiteur, cette personne t'est donc due quant à appliquer ou non ce conseil. Lorsque j'accepte de me conformer à la loi du Shemitah dans ma vie, j'accepte de libérer la personne devant moi de mes droits sur son fonctionnement, de mon droit sur son arrêt. Si elle s'arrête, ça doit être son choix. Si elle s'avance, ce doit être son choix. Si elle va plus vite, ce doit être son choix et non pas mon imposition sur son fonctionnement. Et malheureusement, très souvent, il se trouve des personnes qui, lorsqu'elles prêtent conseille, lorsqu'elle prête assistance à quelqu'un, elle devient un peu comme le papa de la personne, hein, comme la figure paternelle de cette personne. Et lorsque cette personne ne fait pas ce qu'on lui dit, alors on le réprimande comme un vulgaire gamin, on le réprimande comme un petit enfant qui n'obéit pas à la voix de la sagesse. Nous ne pouvons pas instaurer, implanter, imposer une autorité. L'autorité est placée par Dieu et c'est nous qui nous y soumettons par la grâce de Dieu et nous le faisons délibérément. Une autorité ne s'impose pas de force. Alors, lorsque je prête à quelqu'un, j'accepte, lorsque j'applique la loi du Shemitah, de retirer mon autorité sur cette personne. Si celle-ci veut écouter mes conseils, tant mieux. Si elle ne veut pas écouter mes conseils, même si mes conseils sont bons, même si je crois que mes conseils sont les meilleurs qui soient, même si je crois que mes conseils sont tout à fait conformes avec la parole de Dieu et avec la volonté ponctuelle, présente et précise de Dieu, il reste que cette personne-là a un choix. Le Seigneur lui-même n'a pas imposé son autorité sur Adam et Ève. Il a laissé l'arbre en plein cœur du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu placer des anges qui étaient autour de cet arbre-là pour dire à Adam et Ève, « Si tu approches ta main, je coupe ta main. » Dieu n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'on aurait accusé Dieu d'être un dictateur. Et Dieu n'est pas un dictateur. Dieu dit, « Voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon. Voici ce que j'approuve, voici ce que je réprouve. » Mais la conformité à ce que j'approuve et la conformité à ce que je désapprouve, c'est un choix libre qu'il a laissé à l'homme et à la femme qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a fait la même chose avec toi. Il te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Dieu ne défonce pas les portes. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas plus imposer notre autorité sur un frère ou sur une sœur. L'autorité se reçoit, l'autorité s'accepte ou l'autorité se refuse. Surtout, l'autorité ne s'impose pas de force. Donc, quatrième terme qu'on a vu, donc on a vu la main mise, le droit légal, légitime, juridique sur quelqu'un. On a vu l'autorité, donc le droit moral, le leadership, celui qui oriente la direction, tu tournes à droite ou tu tournes à gauche, on abandonne cela. Celui qui attend aussi une part, une dividende, des profits sur son investissement, on abandonne cela. Enfin, on abandonne l'axe, donc celui qui a le droit sur le fonctionnement ou sur l'arrêt d'une personne, qui a le droit sur la cadence, sur la vitesse, sur le rythme imposé à une démarche de quelqu'un. Et enfin, un terme aussi technique que peu d'entre nous utilisons, le terme tenon, T-E-N-O-N. Qu'est-ce que le tenon? Le tenon va avec une mortaise. C'est des termes de quincaillerie, c'est des termes de d'ébénisterie, de quelqu'un qui fabrique des meubles. Le tenon, c'est quelque chose qui fixe deux bouts de bois ensemble. Régulièrement, lorsque vous allez construire, vous savez, cette marque de meubles qui vient de la Suède, qui est jaune et bleu, qu'on voit dans la plupart des villes chez qui on va acheter des meubles et qu'il faut monter ces meubles. Parfois, il existe des petites pièces en bois qui sont comme des petits tubes qu'on implante dans un et dans deux bouts de bois et on les joint ensemble. Et lorsqu'on les joint ensemble, on fait en sorte que cette jonction soit parfaite. Donc, le petit bout de métal ou le petit bout de bois qui joint ces deux morceaux de bois pour faire le meuble, c'est ce qu'on appelle un tenon. Et lorsqu'on parle du tenon, d'avoir le droit de tenon sur quelqu'un, ça voudrait dire que lorsque je prête à quelqu'un, lorsque je prête financièrement ou lorsque je prête assistance à quelqu'un, je viendrai à décider avec qui il a le droit de s'associer, avec qui il a le droit d'avoir des fréquentations. nous ne sommes pas dans l'imposition de fréquentation ou dans l'interdiction de fréquentation par rapport à nos frères en la foi. Nous pouvons donner des conseils, nous pouvons dire à quelqu'un, regarde, si tu te tiens avec cette personne, voici, tu risques d'avoir telle ou telle difficulté, fais attention à telle chose, parce que tu risques d'aller dans tel domaine ou dans tel autre domaine. On peut conseiller, on peut instruire la personne, mais nous n'avons pas le droit de séparer, nous n'avons pas le droit de diviser, nous n'avons pas le droit d'unir non plus. Cela doit venir du cœur et de la pensée de la personne. Très souvent, encore là, malheureusement, lorsque on se sent créancier de quelqu'un, lorsqu'on sent que ces gens nous doivent quelque chose, on exerce une autorité qui devient effectivement une exaction. On devient des exacteurs devant cette personne où on impose un droit, on impose une volonté qui outrepasse nos limites. Lorsque nous appliquons la loi du Shemitah, nous disons aussi à cette personne, je ne me mêlerai pas de qui tu fréquentes et de qui tu rencontres. Je vais vous dire un exemple très ponctuel dans ma vie de pasteur. Et c'est un exemple que j'ai avec les autres pasteurs de notre équipe. C'est quelque chose qu'on a statué. On a souvent échangé là-dessus, le pasteur André et moi, puisque c'est souvent nous qui rencontrons des jeunes couples qui vont se marier. Lorsque quelqu'un vient nous voir en nous disant « Nous voulons nous marier », voilà un des engagements qu'on prend avec ce jeune couple. On leur fait la promesse que nous ne vous dirons jamais si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas avec votre union. Ce n'est pas ma responsabilité en tant que pasteur. Ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de vous dire « Voici les responsabilités d'une fréquentation ». Voici les responsabilités d'une fréquentation qui va vers le mariage. Mais ma responsabilité n'est pas de dire à quelqu'un « tu dois marier telle personne et non pas telle autre ». Ce doit être entre ce couple-là, entre eux deux, et ce doit être entre ce couple-là et Dieu, mais pas à moi. Ce n'est pas la responsabilité d'un pasteur de dire à une brebis « tu dois te marier avec telle personne et je ne le dis jamais ». Et je ne le dirai jamais, à moins que Dieu vienne me voir très, très, très fortement avec un tremblement de terre et tout ça, et qu'il me dirait, Florent, je veux que tu parles à telle personne. Mais sincèrement, depuis 97, donc depuis 97 que j'exerce un ministère pastoral auprès de la congrégation, auprès de jeunes gens qui pensent au mariage, je n'ai jamais eu de tremblement de terre. Je n'ai jamais vu d'éclair, je n'ai jamais entendu de bruit de tonnerre où Dieu me disait « va dire à telle personne qu'elle doit se marier avec celle-ci ou celle-là ». Je sais qu'à une certaine époque, c'était une pratique commune pour plusieurs et je suppose qu'encore aujourd'hui, plusieurs pasteurs l'appliquent. Quant à moi, je crois qu'il n'est pas de notre devoir, qu'il n'est pas de notre responsabilité de dire à une brebis « tu dois te marier avec telle personne ». Pourquoi? Parce que le jour où cette personne va passer par les problèmes. Le jour où ce couple va être dans la douleur, je ne veux pas qu'il vienne me voir en me disant « Pasteur, vous étiez le tenant de notre couple. Vous étiez ce tenant qui nous a joints ensemble par vos paroles qui nous disaient que nous devions être ensemble. » Celui qui se marie, c'est une décision entre un homme et une femme, décision qu'ils entérinent devant Dieu et décision que Dieu prend acte. Moi, en tant que pasteur, je prends aussi acte de cette décision. Je l'écris dans un livret légal. Je l'écris dans un papier tout à fait légal que j'envoie au gouvernement, que j'envoie à Statistique Québec et aux instances juridiques adéquates qui font que ce mariage, j'ai été témoin. Ce mariage, c'est moi qui l'ai célébré, mais c'était la décision libre, réfléchie, délibérée d'un homme et d'une femme. Alors, nous n'avons pas à être des tenants. Nous n'avons pas à être ceux qui disent à quelqu'un « tu dois fréquenter celle-ci et ne pas fréquenter cette autre personne ». Ça reste le choix et la liberté d'un individu. Alors, voilà ce que veut dire abandonner nos droits lorsque nous avons quelqu'un qui nous est débiteur, lorsque nous avons quelqu'un qui nous doit quelque chose, que ce soit parce qu'on lui a rendu un service, que ce soit parce qu'on lui a donné un montant, que ce soit parce qu'on lui a donné un conseil. Les personnes, lorsqu'on les libère, lorsqu'on agit dans la loi du Shemitah, on décide de ne plus avoir la mainmise sur eux, de ne plus être l'autorité sur eux, de ne plus avoir part au profit que cette personne pourrait tirer de nos conseils, de ne pas être l'axe moteur de cette personne qui entraîne ou qui freine sa poursuite et qui ne soit pas non plus un tenant qui gère les fréquentations et les associations de cette personne. Lorsque nous libérons pleinement. Le terme yad, qui voulait dire mainmise, autorité, part, axe et tenant. Alors, je crois qu'on s'arrête là pour ce matin. Encore une fois, désolé d'avoir pris un peu plus de temps. Il y a eu ces problèmes de connexion au tout début, mais j'espère que cet enseignement ce matin vous a été profitable. Demain matin, on a encore des choses intéressantes. Demain, on va parler des pressions, la fin des pressions, le terme nagas qu'on a déjà mentionné dimanche, mais on va le voir là aussi avec des images qui vont nous être relativement frappantes là encore. Alors, on vous souhaite d'être là demain matin aussi. Alors, prions et après ça, je vais voir si je suis capable de saluer quelques personnes. Ça va être compliqué ce matin, j'ai l'impression. Mais prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette exhortation où tu viens nous secouer, où tu viens, Seigneur, relativiser le rôle qui nous est octroyé lorsque nous prêtons, lorsque nous aidons, lorsque nous assistons quelqu'un. Ta parole nous dit clairement, ne devez rien à personne que de vous aimer les uns les autres. Alors je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous soyons libres de tout joug humain, d'une part, mais de surcroît à cela, Seigneur, que nous n'imposions pas plus de joug sur qui que ce soit. Seigneur, quelqu'un peut venir prendre conseil auprès de nous, mais la décision reste la leur. Au même titre, Seigneur, où nous ne pouvons pas prendre une décision pour que quelqu'un te reçoive comme son Seigneur et son Sauveur, nous ne pouvons pas plus, Seigneur, prendre une décision quant au fonctionnement, quant à la vie ou imposer quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons simplement prier, intercéder et aimer cette personne. Alors je prie, Seigneur, que ces enseignements trouvent un terrain fertile, que tu puisses éclairer, Seigneur, peut-être des endroits où nous avons besoin d'aller demander pardon à certains, parce qu'on a outrepassé nos droits, ou nos compétences, ou nos capacités, ou notre appel. Peut-être, Seigneur, que dans certains cas, tu vas nous dire franchement et directement d'abandonner telle ou telle pratique que nous avions, telle ou telle tendance que nous avions lorsque nous prêtions assistance. On devenait un peu comme le chef, le propriétaire, le guide de telle ou telle personne qu'on avait aidée. Seigneur, nous ne devons à qui que ce soit que de les aimer. Alors nous prions, Seigneur, que notre amour soit sans attente, que notre amour soit sans attache, que notre amour, Seigneur, soit délibéré et libre, afin, Seigneur, de te glorifier, même dans le pardon que nous exerçons, même dans l'aide que nous exerçons, même dans l'assistance que nous exerçons, et aussi, Seigneur, dans le relâche des droits que nous croyons avoir sur telle ou telle personne. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin, et qu'en toute chose que ta gloire, Seigneur, soit respectée comme étant strictement pour toi et uniquement pour toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, c'est un peu compliqué ce matin, à cause des différentes connexions, de voir qui est là. Donc, je vous salue tous, content que vous ayez attendu avec moi que la connexion s'opère. J'espère que cette parole vous aura béni malgré le petit contretemps. Et on se retrouve demain matin. Juste vous rappeler, ce soir, il y a l'étude avec le pasteur Sergio sur servir Dieu en temps de défi. Et il m'avait déjà dit que sa prédication d'aujourd'hui, puisqu'il a traduit l'enseignement de dimanche, il me disait que donc l'enseignement d'aujourd'hui allait être en rapport avec ce qu'on avait vu dimanche dernier. Donc, je prie que vous soyez là aussi ce soir, 19h, heure de Montréal, avec le pasteur Sergio. pour notre temps d'enseignement avec notre bien-aimé. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir, 19h, avec le pasteur Sergio, ou demain matin, en espérant que la connexion s'opère plus facilement demain pour notre bénédiction matinale du jeudi. Donc, demain matin, 8h30. Bonne journée à tous. Au revoir.